voudrais vous raconter l'histoire de l'imprudence, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme bien au chaud dans son bureau à la City de Londres, qui met les chiffres dans les bonnes cases et gagne bien sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'un jour il plaque tout? Qu'est-ce qui fait qu'un jour il change de vie? Peut-être qu'il regarde ses pieds un matin dans ses belles chaussures de ville et qu'il a l'impression que ses pieds ne lui appartiennent pas. Peut-être qu'il préfère soudain rater à sa manière que réussir comme tout le monde. Peut-être qu'il se souvient de cette phrase de Brel dont le lyrisme a bercé son enfance. Le monde sommeille de manque d'imprudence. Il y a des phrases comme ça qu'on entend longtemps avant de les entendre vraiment. Et ce jour-là, tout change. On se casse. On se lève et on se casse. On plaque la finance et on se lance dans la chanson, dans l'écriture, dans la boulangerie, dans l'artisanat. On prend son risque. L'envie de vivre est telle qu'elle permet de dépasser la peur de l'échec. Elle libère aussi du perfectionnisme qui est le déguisement bien pratique de cette peur de l'échec. Il va chanter son existence au lieu de perdre sa vie à la gagner. Il va écrire sa vie au lieu de laisser les normes et les process lui dicter ce qu'il doit faire. Vous savez quel est le mot qu'on entend le plus en entreprise aujourd'hui? Probablement plus encore que les mots salaire, travail, motivation. C'est le mot process. Tout est dit, non? Il ne veut pas devenir un rouage du process. Il ne veut pas répondre comme un lundi quand on lui demande comment ça va. Il ne veut pas devenir cette personne-là. Mais au cœur de sa belle imprudence, plaquant son job de cadre pour écrire des chansons et des livres, il ne fait pas n'importe quoi. Son sens du risque n'est pas amour du risque. Puisqu'il travaille sans relâche, tente différents formats, cherche à dire le mieux possible ce qui le hante, l'exil et l'asile, la colère et la douceur, et puis la beauté mauve merveilleuse de cette étrange plante qu'on nomme jacaranda. Au fond, le plus grand risque, ce n'était pas de partir, mais de rester, de laisser passer les années sans jamais devenir soi. En ce sens, son imprudence relèverait presque de ce qu'Aristote nomma phronesis, une sagesse pratique adaptée aux circonstances, que l'on traduit en français par « prudence ». Mais être prudent, en ce sens d'Aristote, ce n'est pas être trop prudent, timoré, frileux, entravé par les excès de ce principe de précaution qui va nous tuer. Non, cette prudence redéfinie par Aristote est précisément un sens de l'action, de l'occasion, un sens du risque pris en conscience. Elle ressemble donc beaucoup à l'imprudence de celui qui se dit que c'est maintenant, maintenant qu'il faut le tenter, maintenant qu'il faut tenter de vivre puisque le vent se lève. Pour en parler ce matin, de cette belle imprudence et de ce sens de l'audace, j'ai le joie de recevoir quelqu'un qui peut-être ressemble un peu à cet ancien de la City, Gaël Faye, chanteur et écrivain, dont le premier roman Petit Pays a rencontré il y a quelques années un succès phénoménal, et qui vient de sortir un étrange EP végétal, au titre plein de promesses, Mauve Jacaranda. Gaël Faye donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à réfléchir à cette belle question, est-ce par l'imprudence que l'on tire le monde de son sommeil?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Gaël Faye.
Bonjour, merci beaucoup.
Bah merci d'être là, ça me fait très plaisir. Si on regarde tout ce temps qui est passé, je dirais grosso modo un peu plus d'une décennie, depuis que vous avez fait ce choix de changer de vie, quel regard vous portez sur cette décennie?
Peut-être comme une décision finalement qui était la bonne au moment, ouais, où je l'ai prise. C'est vrai que il y a toujours cette idée un petit peu romanesque de se dire je plaque tout et à moi le grand large, ouais, mais les choses se font quand même de façon plus en douceur, c'est-à-dire qu'il y a une imprudence qui est là, mais elle est aussi réfléchie. C'est pas un coup de tête total, mais effectivement il y avait ce sentiment qu'il y avait un grand risque que je passe à côté de finalement ce pourquoi je vibrais vraiment au fond.
Alors c'est vrai que je précise que tout le monde ne le sait pas. On vous connaît pour plein de choses. Ce succès énorme de Petit Pays, vous avez eu plein de prix, le prix Goncourt des lycéens, le prix du roman Fnac et plein d'autres. Vous avez failli avoir le prix Goncourt. Il a été adapté au cinéma. Vous avez été co-scénariste. On vous connaît évidemment pour beaucoup de chansons, enfin, presque de tubes. Petit Pays, Je pars. Et puis plus récemment, on va en parler. Mais c'est vrai que tout le monde ne sait pas que vous aviez un job très classique dans les assurances, je crois.
Ouais, c'est ça. Je bossais bossais dans un fonds d'investissement qui s'occupait de fonds de réassurance.
Ouais. C'est vrai que c'est assez marrant. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites. Voilà, c'est pas un coup de tête. C'est ce que j'appelais dans mon édito sens du risque et pas amour du risque. Oui. Il y avait quelque chose de, à la fois de mesuré et pourtant d'audacieux, quand même.
Oui, d'audacieux. En fait, c'est aussi à un moment donné un retour sur la vie dans laquelle on nous plonge en tant que qu'élève à l'école. Ouais. On nous apprend la prudence d'une certaine façon. On n'a pas de cours sur la prise de risque. Au contraire, on nous dit d'être prudent, d'avoir la bonne note, ouais, de bien réviser ses leçons. Et donc c'est vrai que j'étais un élève qui disait oui avec, ouais, la tête, comme dit Prévert à l'instituteur. Donc j'ai fait les choses. J'ai parcouru ce chemin d'écolier.
Bon élève, sérieux, docile. Ouais,
voilà, c'est ça. Je pense plutôt une histoire de docilité, en plus, qui était dans un contexte burundais. J'ai grandi au Burundi, où les enfants on apprend vraiment le respect de l'adulte. La figure du rebelle n'est pas du tout mise en valeur comme dans la culture française. Ouais. Et donc, du coup, il y a eu comme ça pendant des années. Je me suis pas vraiment posé de questions. Et puis une fois que j'ai fait tout bien comme on m'a dit de faire, je me suis dit mais finalement où est le sens? En fait, c'était la question.
Vous êtes arrivé en France aussi à l'âge de 13 ans.
Voilà, après je suis arrivé en France.
Banlieue?
En banlieue. Ma mère habitait à Versailles, donc ouais, je suis arrivé à Versailles et puis voilà.
Banlieue douce et banlieue vous avez continué douce, à être, ouais, docile.
Ouais, c'est voilà. Ça. Et disons, il y avait quand même ces espaces de liberté qui étaient l'écriture, le rap, qui était là, mais qui n'ont jamais été envisagés comme des possibilités sérieuses de vie. C'était simplement des jardins secrets. Et puis c'est vrai que la question, une fois que j'ai eu tous mes diplômes, que j'étais installé, que j'avais aussi cette disons socialement, je savais donner le change. Je me suis posé la question de quel était le sens de tout ça. Ouais.
Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars pour la saison des pluies. Je pars, hier. Yeah. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je veux juste un chapeau de paille, une plage et un transat. Oublier les charters, les aéroports dans lesquels on transite. Je veux des nuits douces au ciel étoilé, scruter la galaxie. S'il n'y a pas de laxisme, on bosse jusqu'à la cataplexie. Je veux manger du riz au curry et des mangues juteuses.
Alors Gaël Faye, donc ça c'est un titre de votre premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, paru en 2013. Évidemment, ça parle d'autre chose, mais est-ce que ce « je pars là », à l'époque, il a résonné par rapport à ce départ à vous?
Oui, alors c'est étrange parce que cette chanson, ce je pars là, il était destiné à cette envie d'aller voir ailleurs après mes études. Et donc, ouais, voilà, je suis allé à Londres. Donc je pars.
C'est déjà un je pars.
C'est assez étonnant parce que c'est un je pars où on pourrait penser que voilà, ça y est, j'embrasse la vie d'artiste. Mais là, c'était plus c'était déjà pour moi une aventure d'être un jeune étudiant français et puis de me dire tiens, je vais outre-Manche, dans une nouvelle langue, dans une nouvelle société. Bon, même si le risque n'était pas si grand, il y avait que la Manche à traverser.
Mais quand même.
Mais voilà, c'était déjà à mon petit niveau un je pars rimbaldien, comme je dis dans la chanson. très, encore une fois, très maîtrisé.
C'est drôle. Ouais. Alors, il y a souvent cette figure de Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, dans pas mal de vos chansons. C'est quoi Rimbaud pour vous? Vous l'avez découvert quand?
Rimbaud, j'ai dû le découvrir au lycée. Je me souviens qu'il y avait une fille dans ma classe qui avait écrit au Tipex sur son cartable, enfin sur son sac à dos, ouais, SPAC. On n'en est pas sérieux quand on a 17 ans. Donc voilà, j'ai découvert à ce moment-là, quoi. Et puis vraiment, j'ai été ébloui par les poèmes de Rimbaud, vraiment. Et puis après, forcément, la vie aussi. Ouais.
C'est beau parce qu'il y a dans toute votre œuvre, tout votre travail, je trouve qu'il y a une dialectique comme ça entre de la colère. Vous avez quand même dû fuir votre pays, être exilé avec ce massacre, ce génocide, et puis au Rwanda et au Burundi. Et puis aussi beaucoup de douceur. Il y a comme ça un aller-retour. Et vous sortez donc, vous avez sorti il y a quelques jours un nouvel EP qui vient clore une trilogie végétale, on pourrait dire. Il y a trois EP qui parlent beaucoup des plantes, des fleurs. Donc le titre c'est Mauve Jacaranda. Et vous nous parlez de cette plante merveilleuse comme ça aux couleurs étranges. Alors c'est quoi exactement ce jacaranda?
Le jacaranda, c'est un arbre du sud et qui a toujours été particulier dans mon enfance parce que je pense que les colons belges ont dû planter des jacarandas le long des routes pour ombrager. Et donc ça faisait des canopées mauves qu'on voyait quand on était dans les collines, on voyait Bujumbura d'en haut. Donc il y a les flamboyants avec les tulipiers du Gabon avec les fleurs très rouges, et là les jacarandas c'est ce violet pétaradant comme ça qui illuminait tout, et puis surtout les feuilles qui tombent et qui font un tapis de fleurs. C'était comme moi mes premiers flocons de neige, c'était ces pétales de mauve, de fleurs jacaranda. Et là, récemment, quand je suis retourné à Kigali, au Rwanda, où j'ai changé de maison, et je me suis retrouvé dans un jardin avec beaucoup de jacaranda, ce qui m'était pas arrivé depuis des années, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une région où on coupe beaucoup les vieux arbres. Donc il y en a plus autant que dans mon enfance, et ça a été un éblouissement, et j'étais aussi très content que mes petites filles puissent elles aussi découvrir.
Parce que donc aujourd'hui vous vivez à Kigali, au Rwanda, avec votre femme et vos enfants, mais vous y êtes retourné après avoir été longtemps absent. Donc ma question, c'est quand vous avez retrouvé ce mauve des jacarandas de votre enfance, entre-temps il y avait eu le génocide, il y avait eu la violence, il y avait eu la barbarie, mais du coup vous les avez vus différemment, comme le retour de la vie malgré tout, ou finalement il y avait une constance et une étrange permanence?
Non, tout s'entremêle de toute façon, c'est ça qui est particulier avec moi je suis attaché aussi à cette idée que le génocide reste dans nos mémoires, que les histoires de guerre, de violence soient là et qu'on vive avec, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, on est dans une époque où on dit il faut tourner la page, il faut avancer, etc. Il y a aussi beaucoup ce discours au Rwanda aujourd'hui qui est le discours sur la résilience, mais parfois presque une résilience qui voudrait dire avançons, oublions.
Déni, presque déni.
Oui, c'est-à-dire il y a trop de poids pour les nouvelles générations, donc ne nous embarrassons pas de ce passé. Et moi, je pense que tout peut cohabiter. Au contraire, il faut accepter cette histoire-là. Et c'est en l'interrogeant, en continuant de l'interroger, en la questionnant, en l'abordant, que finalement, on peut mieux vivre avec, même si on ne vit pas avec, enfin, on vit pas bien avec l'histoire d'un génocide. Mais en tout cas, ça permet de mieux entrevoir l'avenir.
Ouais. Il y a deux grandes façons de voir aujourd'hui la manière d'aller de l'avant. Quelque chose qu'on pourrait appeler une idéologie moderniste, ce que vous venez de critiquer, où on pense que pour aller de l'avant, il faut pas se retourner vers le passé. Ouais. Il y a beaucoup de chansons populaires, même une chanson de Jacques Higelin qui dit « Vas-y, avance et ne te retourne pas ». Ouais. C'est, à mon avis, un cliché un peu limité. Et puis, il y a de l'autre côté, l'idée que seul un bon rapport au passé nourrit un bon rapport à l'avenir, que finalement, et c'est ce que dit Bergson, je ne peux aller de l'avant qu'avec tout mon passé. Oui. Comme si la mémoire était au fond la condition du fait de marcher vers demain.
Mais oui, moi je m'en suis rendu compte dans mon parcours personnel, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des fractures terribles, des espaces qui étaient vides dans la biographie familiale, des tellement de non-dits, de silence, que j'en suis arrivé à un moment donné à cette nécessité d'écrire, d'interroger, de vraiment me prendre la tête pour le dire concrètement, c'est-à-dire que j'étais révolté moi face à toute cette tous ces silences, tout ce qui n'existait pas, et ce qui m'a manqué, c'est la mémoire, vraiment, pour me projeter dans la vie, pour me projeter, c'était cette mémoire familiale, et puis même un plus historique, c'est-à-dire je connaissais mieux l'histoire de France que l'histoire du Burundi. Encore aujourd'hui, je serais incapable de remonter sur 3-4 générations l'histoire des rois, l'histoire.
Parce qu'en fait, votre père est français et votre mère rwandaise.
Oui, exactement. Et c'est vrai que autant la culture française m'a été inculquée, on va dire de façon assez naturelle, assez fluide, autant celle burundaise et rwandaise, j'ai très vite ressenti, mais c'était de l'ordre du ressenti, que partout il y avait des parts d'ombre et des choses qui ne s'expliquaient pas, qui ne se disaient pas, qui étaient tabous, ça m'est revenu vraiment comme un retour de flamme terrible en arrivant en France. Parce que d'un coup, autant quand j'étais au Burundi, j'étais dans cet environnement que je partageais avec tout le monde, autant arriver en France, j'avais cette culture française, mais j'avais aussi envie d'affirmer une culture burundaise et rwandaise auprès de mes camarades français. Et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas, qu'elle était là, mais avec tellement de silence et tellement de trous béants que finalement j'étais comme un être incomplet.
C'est intéressant, vous avez senti le manque du Burundi en étant en France, paradoxe. Mais où est-ce que vous sentez le plus chez vous ?
Je me sens... J'ai envie de dire une phrase peut-être qui peut paraître comme un... comme un faux fuyant, mais je dirais que je me sens vraiment chez moi là où je suis accueilli. C'est bizarre à dire, mais je peux vraiment là où je suis accueilli, je me sens chez moi. Et c'est pas évident en fait de se sentir accueilli. Vous voyez les gens qui vous disent ben fais comme chez toi, mais qui quand même vous rappellent que vous n'êtes pas chez vous. Il y a des gens qui vous disent faites comme chez toi et on se sent vraiment chez soi. C'est là où je me sens chez moi.
Et sur scène?
Ah oui, alors sur scène, sur scène, je me sens chez moi et j'accueille.
Et vous êtes aussi accueilli.
Et je suis aussi accueilli, c'est vrai.
Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue, j'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu, il y a l'eau qui bout, pourquoi parlerions-nous des autres, quand il n'existe que nous, alors trinquons à la nôtre. Tous les deux, nous. Oui, rien que tous les deux, dans ce feu fou, à nous brûler amoureux, on se tient par les yeux, comme des amants fiévreux. Chant de morna, un air de cavaquinho, que mes grands bras, ouverts de corcovado, s'enroulent autour de toi, comme un foulard de soie. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue, j'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout, pourquoi parlerions-nous des autres, quand il n'existe que nous, alors trinquons à la nôtre. Que les vents nous emmènent, au loin au large, bateau sur la mer, et nous deux sous le ciel, oui nous deux au milieu du vent, on ne joue qu'à nos jeux. De grands oiseaux de feu. Si tout est grave, on s'en fout. Si tout est grave, on s'en remettra. Pour nous, du soleil partout. Et le soir, mon cœur est en proie au grand sable mouvant de tes envoûtements. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la bouche. Et de l'amour à marée haute. Sur le feu, y a l'eau qui bout. Pourquoi parlerions-nous des autres, quand il n'existe que nous? Alors trinquons à la nôtre. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue. J'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y a l'eau qui bout. Pourquoi parlerions-nous des autres, quand il n'existe que nous? Alors trinquons à la nôtre. À la vie, à l'amour. 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 De Rome pour nos étoiles, pour ces lumières dans le ciel, à nos nuits noires, à nos nuits pâles, à nos jours éphémères, entends l'écho de mes je t'aime, dans le sillage de tous mes mots, regarde les démons que l'on sème, à courir après l'aube, j'ai de l'amour à marée.
quand j'ai l'eau qui bout sur le gaz. Mon cœur un puits de pétrole qui brûle. Pour toi qui donne sens à mes jours. Alors de l'aube au crépuscule. À la vie, à l'amour.
C'était évidemment Gaël Faye, le très beau et très doux Marée Haute.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Gaël Faye. Nous parlons de beaucoup de choses, hein, d'imprudence, de quand est-ce qu'on se sent chez soi. Et avant d'écouter ce très beau morceau, Marée Haute, vous disiez, c'est très joli, je me sens chez moi quand je suis accueilli. Figurez-vous que c'est la définition de l'hospitalité de Jacques Derrida, vous connaissez probablement. Et il y avait aussi Barbara Cassin qui disait un truc très joli. Elle a écrit un beau livre sur la nostalgie. Elle dit voilà, en fait, là où je suis vraiment chez moi, c'est en Corse, alors qu'elle n'est pas du tout corse, parce que c'est là où on m'a accueilli. C'est un peu ce que vous dites.
Oui, pendant longtemps, après ce départ forcé du Burundi,
à l'âge de 13 ans,
oui, à l'âge de 13 ans, j'ai pensé que chez moi c'était au Burundi, et donc j'ai vécu comme ça avec ce fantasme qu'un jour je retournerai au Burundi et que le pays m'attendrait, qui
chez
serait
moi,
là pour
chez moi,
le chez moi. Et puis je suis revenu au Burundi et je me suis rendu compte que c'était plus chez moi parce que le temps était passé, les gens n'étaient plus là, que le chien que je connaissais chez le voisin était mort, que l'arbre avait été coupé, que la rue qui était une piste était pavée maintenant. Et donc ce sentiment terrible en fait d'avoir les lieux mais vidés de la substance qui faisait que c'était chez moi. Ça m'a rendu très triste et en même temps ça m'a libéré d'un fantasme, ouais. d'une construction que je m'étais faite et oui, d'un coup c'était plus facile pour moi d'aller à la rencontre de nouveaux espaces, de nouveaux lieux, des rencontres parce que j'avais plus de port d'attache matériel.
Ouais. Et donc le chez-soi est devenu un chez-soi au fond à inventer, c'est ça ?
À inventer toujours, tout le temps, et ça fait que parfois en ce moment nous sommes en tournée et c'est vrai que j'arrive dans un endroit et je m'y sens bien, les gens nous accueillent bien et d'un coup j'ai ce rêve de poser mes valises et de me dire tiens ici je pourrais rester et j'aime beaucoup ce sentiment là.
Oui, je comprends. Vos valises, d'ailleurs, vous pourrez les poser vendredi prochain, puisque vous êtes en concert à Saint-Malo du Bois en Vendée, mais vous serez obligé de partir pour les poser le 22 juillet à Célestat, puis de repartir encore pour les poser à Crozon en Bretagne le 5 août.
D'ailleurs, c'est possible que je reste à Crozon. Après,
hein. D'ailleurs, vous avez dit, je trouve pas ça très sympa pour les autres, pour les Parisiens ou les Rwandais, que votre seul vrai public, il est breton. C'est pas un peu démagogue.
Non, c'est pas démagogue parce que c'est très étrange, mais en Bretagne, bon, alors c'est pareil, il faut faire attention avec ça, des images qu'on se fabrique, parce que le jour où je me retrouve devant un public breton plus timoré, ouais. plus timide, je vais être extrêmement déçu. Mais c'est vrai que en Bretagne, il s'est toujours passé des choses qui n'arrivent nulle part ailleurs.
Par exemple,
je me souviens un concert à Brest où dès le premier morceau, j'ai dû arrêter le morceau pour dire aux gens. De crier moins fort, de faire moins d'ambiance, parce qu'en fait, on s'entendait plus sur le plateau. On avait l'impression d'être un peu les Beatles, et ça m'était jamais arrivé. D'habitude, il faut un peu aller chercher les gens, ouais. Donner un peu d'effort au départ. Et là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que l'énergie venait plutôt de la salle.
Trop d'amour.
Trop d'amour.
Alors, ce qu'on a écouté tout à l'heure, Marée Haute, c'est un extrait de votre dernier EP qui s'appelle Mauve Jacaranda. Et il y a beaucoup de chansons, enfin, il y en a 5 dans cet EP, très très belles, très douce. Il y a Taxiphone, il y a Butaré, qui est la ville de votre grand-mère, je crois,
oui,
Rwanda.
Oui.
Et c'est assez étrange comme démarche, ça clôt une trilogie. Donc vous avez fait, en fait, d'un côté deux albums, l'album de votre révélation, de votre éclosion, on pourrait dire, en 2013, qui était Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est là où il y a Je pars, où il y a Petit Pays, où il y a France aussi. Et puis, en 2020, l'album Lundi Méchant, on va en parler, où il y a Chaloupé, que j'adore. Et on va bien sûr parler de ce Lundi Méchant, c'est-à-dire comment on réagit quand on arrête de dire comme un lundi. Voilà, on va en parler. Mais parallèlement, il y a trois EP qui scandent ces années, qui sont des EP végétaux, où ça parle beaucoup de fleurs, de plantes, de couleurs merveilleuses. Alors, quelle relation vous entretenez avec ces plantes ?
Mais ça a été un peu magique, la première révélation, c'est-à-dire que je sortais de cet album Pili Pili sur un croissant beurre que j'avais mis 10 ans à faire, qui m'avait coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de risques.
Il y avait 30 beaucoup musiciens, aussi de réussite.
Beaucoup de réussite aussi. Mais j'avais aussi l'impression d'être incompris, en fait, cet album. Mais c'est normal parce qu'il était très baroque. D'un coup, je voulais mettre toutes les palettes, toutes les couleurs de ce qu'avait été ma vie. Donc c'était, il fallait faire un effort, en fait, pour entrer dans cet univers là donc c'était assez étrange, en fait. Je suis sorti de cet album avec un sentiment mitigé, et je savais plus très bien où j'en étais artistiquement. Et c'est lors d'une déambulation dans le jardin botanique de Lisbonne que m'est apparu cet arbre. Encore, les arbres comptent beaucoup pour moi, parce que je pense que ça renvoie à l'enfance, à plein de choses. Et donc il y a un arbre qui s'appelle le Ficus elastica, qui a des racines incroyables qui sortent de terre, qui rentrent dans la terre. Et moi j'ai grandi dans une maison où il y avait un Ficus elastica immense qui recouvrait quasiment toute la parcelle. Donc j'ai
Au Burundi,
qui a été coupé d'ailleurs par les gens qui ont repris la maison après. Donc ça a été pour moi vraiment comme la perte d'un être cher. Et je m'en remets toujours pas de cet arbre qui a été coupé. Et donc je tombe devant ces Ficus elastica dans le jardin de botanique de Lisbonne. Et d'un coup m'apparaissent ces racines qui sont tous les câbles que je vois sur scène. Comme ça, cette espèce d'amas de câbles, et je me suis imaginé que au bout de ces racines il y avait un micro quelque part. Alors c'est bizarre, hein, c'est une image, on pourrait croire que j'avais aussi fumé dans ce jardin, mais j'étais assez sobre. Et donc je me suis imaginé que d'un coup je faisais un freestyle végétal avec ce Ficus elastica de mon enfance. Et c'est vrai que ça m'a redonné une envie, comme, je sais pas, rencontrer un livre ou un artiste qui d'un coup nous redonne une envie de création, nous ouvre des perspectives. Et là, c'était un arbre qui me donnait ça.
Mais est-ce que vous connaissez la scène de la nausée de Sartre face aux racines?
Non. Parce
que c'est une scène analogue, c'est très étrange. Vous avez donc regardé ces racines du ficus, ça vous a rappelé plein de choses, ça vous a donné plein d'envie. Oui. Mais dans la nausée de Sartre, il y a un peu la même scène en version plus de Bad Trip, où en fait, le narrateur, il voit les racines et il se demande ce qui le distingue, en fait, de ce genre de choses, et comment il peut reprendre vie. Ouais, c'est très intéressant. Mais alors, si on vous entend, on comprend aussi que finalement le succès de votre album de 2013, Pili Pili sur un croissant au beurre, vous l'avez vécu de façon mitigée. Mais est-ce que c'est pour ça que vous êtes passé à l'écriture du livre, Petit Pays, pour changer de format?
Complètement. Il y a un titre qui est très emblématique pour moi, c'est L'ennui des après-midi sans fin, qui clôture donc l'album. Qui clôt l'album Pili Pili sur un croissant au beurre, qui était étrange pour moi comme chanson, parce que j'avais envie de parler de ce temps d'avant la guerre, d'avant l'exil, et je l'avais jamais abordé en écriture. Et je me disais, comment on peut ne rien raconter? J'avais toujours raconté des choses assez impressionnant, des violentes, des fracas, du bruit, des larmes, du sang, et d'un coup je me disais, mais c'est pas, il y a pas que ça qui te constitue, il y a toute cette partie d'avant et dont tu n'as jamais parlé. Et c'est vrai que finalement je me suis dit, j'écrivais l'exil, la guerre, tout ça aussi pour répondre aux injonctions, pour répondre à l'image que je renvoyais quand je suis arrivé en France, que j'étais un réfugié, un exilé, etc. Et je me suis dit, mais réapproprie-toi aussi ce temps d'avant.
La douceur, la simplicité.
Exactement. Et donc, j'écris ce texte sur l'ennui. Et la maison de disques à l'époque me dit, il faut pas le mettre, c'est long, c'est ennuyeux, c'est pas radiophonique. Et donc ensuite je prolonge sur un roman.
D'accord, on va écouter un petit peu.
Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio, de quelques voix que je distingue. Des oiseaux dans une volière, le kasoukou fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant. Rayons de soleil en suspension, filaments de poussière dans l'air, qui traversent le salon pour zébrer d'ombre et de lumière.
Alors Gaël Faye, on entend que vous n'êtes, il me semble, pas simplement influencé par Rimbaud, mais aussi par Denis Laferrière, qui a beaucoup écrit comme ça. Il a un titre qui ressemble à votre chanson.
Oui, mais ça, c'est un clin d'œil à son livre sur l'ennui des après-midi.
C'est ça, le charme des après-midi.
Le charme des après-midi sans fin, exactement.
Daniel Laferrière qui était à votre micro il y a quelques temps, et c'est beau aussi cette notion de d'avoir presque comme si vous disiez voilà, en fait j'ai le droit aussi à ça, c'est pas parce qu'il y a eu le génocide qu'il y avait pas ça avant.
Oui.
Et peut-être on retrouve ça de manière assez permanente, et quelque chose, on a le droit finalement de pas être juste défini en fait. Oui. par ce drame.
Oui, mais c'est ce que j'aimerais dépasser. C'est-à-dire, là, il est encore un peu tôt, je me suis pas suffisamment questionné sur, tous ces renversements, ces bouleversements qu'a connu la région des Grands Lacs où j'ai grandi. Mais c'est vers ça que je tends. C'est-à-dire de pouvoir simplement écrire un album entier ou un roman entier qui ne parle que d'un mouvement de vent dans les arbres de mon enfance, et sans qu'il y ait d'un coup une histoire d'ethnie, de génocide, de guerre, de dissension. Voilà, c'est à ça que j'aspire, parce que c'était la promesse que m'ont fait les premières années de ma vie.
Est-ce que c'est une façon de répondre à la violence? Est-ce que c'est une réponse à l'adversité, de dire voilà, on a droit à la douceur, ou est-ce que c'est décorrélé au fond?
Je pense que, alors c'est ça qui est étonnant, c'est que j'aimerais dire que c'est décorrélé, et au fond j'ai aussi cette impression que c'est une manière d'affirmer une humanité qu'on nous retire dans ces régions-là, où finalement on ne parle de nous que lorsqu'on est des victimes. Mmh. Que lorsqu'on est pris dans les tourments de ces violences qui reviennent par cycle, alors que quand tout va bien, on ne parle pas de nous.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de Tôle-Saint-Yves, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres.
Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu katoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu katoyi, gaugu kaniniya. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka.
Quand tu pleures, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays,
je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu katoyi, gaugu kaniniya.
C'était Gaël Faye, petit pays évidemment.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Alors Gaël Faye, vous disiez avant d'écouter un de vos plus grands succès, que quand même dans ce succès il y a quelque chose qui était imparfait, insuffisant, et vous avez dû passer au roman. Et puis finalement vous avez écrit le roman qui porte pour titre Petit pays, qui a été un énorme succès et bien mérité. Qu'est-ce que le roman a permis que la chanson n'avait pas permis?
Je pense que ça a permis peut-être de fabriquer un univers de façon plus étendue. Il y avait un format dans la chanson peut-être qui me restreignait. Et comme moi je ressentais pas, parce que c'est vrai que les notes, j'ai mes propres images, mais je pense que l'auditeur ne percevait pas tout, et que dans le roman j'ai peut-être pu être plus précis, un peu plus exhaustif. Ouais.
Vous êtes souvent agacé quand des gens viennent vous voir en disant « Oui, d'habitude, j'aime pas le rap, mais vous, ça va. » En gros, vous êtes passé par le fonds d'investissement, vous avez fait des bonnes études, vous êtes cultivé, vous avez en plus la légitimité d'être un rescapé du génocide, donc vous, ça va.
Ouais.
Et justement, vous dites « Mais non, pas du tout, je suis un rappeur aussi, comme les autres. » Et d'ailleurs, vous défendez beaucoup l'écriture du rap. Et je voudrais que vous faire entendre quelques exemples de vos contemporains pour que vous me parliez un peu de cette écriture. Alors, on va écouter d'abord un duo que vous avez fait avec Hippocampo, que je trouve très 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 beau.
C'est simple, je suis un mec serein pour mon bien-être. Je n'ai besoin de presque rien, des fesses rebondies, une jolie paire de seins, quelques bagels, beaucoup d'alcool, des kilomètres de joint.
Tout part à volo, ainsi va la vie. Je lève les voiles pour m'en aller voguer. J'emporte avec moi un tas de bricoles, cahier spirale de mes rimes frivoles. Mon charabia, mon picapia, mon Picasso et mon pote picassiette. T'es dans mon sac, un souk de cassettes, de zouk, de zik, de type à casquette. J'emmène loin mon ghetto blaster sur des plages de sable fin. Mes mots cassés dans mes calepins, boubou de bazin et mocassin.
Alors voilà Gaël Faye, ça c'est un duo avec Hippocampo qui est assez génial. Hein.
Ouais, j'adore.
Et vous l'avez écrit à deux?
Ouais, on l'a écrit tous les deux. Hippo avait déjà écrit le refrain.
Ouais.
Et
puis, besoin de presque rien.
Ouais, c'est ouais, c'est ça.
Des fesses rebondies,
des kilomètres de joint. Il m'a dit, t'es
un
sûr
bon
ouais, t'es sûr. J'ai dit, ouais, bien sûr.
Alors, je vois la réalisatrice, là, quand on dit les fesses rebondies, elle ouvre des grands yeux. Et pourquoi? Où est le problème?
Bah oui, où est le problème?
Donc, ça, c'est Hippocampfu. Et d'ailleurs, je recommande le clip qui est génial. Ouais. Vous faites une sorte de concert dans une maison de retraite.
Ouais, c'est ça. C'est l'envers du décor de la vie d'intermittent de spectacle. Intermitteux ouais. du spectacle, ouais, où on prend tous les plans possibles.
Et puis, on voit aussi qu'il y a une vraie écriture.
Et oui, c'est ça que j'adore avec Hippo. C'est quelqu'un qui adore jouer avec toutes les sonorités, les allitérations, les métaphores les plus incroyables. Déjà, juste le nom de scène, Hippocampfu, faut l'inventer.
Allez, pensez, ouais. Alors maintenant, autre exemple.
Feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi. Creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sûr de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Fais de toi, fais de nous. Prends pas la tête, je ne tiens plus le coup. On bavardait sans dire un mot. Le bruit de mon silence en dit non. Sentiment grandissant, figeant l'ego. Prison de mots, absence de compliments. Je suis en attente, en apprentissage. Je trappe ça, je vu l'âge à la nage. Je fuis l'alcoolisme. Sur la planche, pas, je j'agonise. Une latence entre ce que je pense et ce que je dis. Ce que j'obtiens et ce que je vise. Soit c'est le père ou bien le fils. Soit la BR ou bien la disque. La night, ouais.
Alors Gaël Faye, je voyais vos yeux là pendant qu'on écoutait Damso, vous aviez l'air de dire ouais, c'est vraiment, vraiment beau, très écrit.
Oh, c'est incroyable. Non, mais ce qui est incroyable, c'est ce mélange entre le voilà ce phrasé rap en même temps cette voix mélodieuse. Enfin, il a un timbre qui est incomparable, qui est extraordinaire. Et puis la maîtrise quoi des mots, cette façon, on peut écouter ça, on a l'impression que c'est une langue étrangère. Et puis dès qu'on s'intéresse vraiment au sens, d'un coup on voit que c'est très écrit. C'est fort, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est de la très grande chanson française.
Ouais. Et d'ailleurs, et Damso et vous-même et Booba, vous réclamez de Jacques Brel.
Ben oui, je pense que. Peut-être parce que c'est chez Jacques Brel, il y a déjà beaucoup de plosives, il y a cette
plosive.
Oui, enfin cette manière d'utiliser les P, les T,
faire sonner,
faire sortir les mots,
quoi,
ouais, le vraiment prononcer l'impact des mots.
C'est ça, ouais.
On est
pas. Il y a déjà du flow, on pourrait.
Ouais, il y a du flow et puis il y a le sens, il y a toujours de l'urgence aussi chez Brel, il y a de l'emphase, voilà.
Et puis maintenant, on va justement écouter dernier extrait, le Brel du rap, comme on l'a appelé.
Mon sucre s'oublie pas car il est pimenté. La plume ne s'usera pas car elle est cimentée. Les anciens déroulent le tapis rouge. Il y a des traces de ma voix sur des papyrus. Ils écrivent du soda, moi des whisky. Ils sont les biscottes, moi le biscuit. Les médisants envoyés chez vétérinaire. Je ne suis pas un de ces artistes intérimaires. Je vais le faire, me sous-titrer de traduction. Une qualité de la pire tradition.
Alors voilà, après Hippocampfu, après Damso, Otmo Puccino. Alors, je vais raconter un truc marrant. Quand j'ai su que j'allais avoir la chance de vous recevoir, j'avais cette idée de vous faire écouter des écrivains du rap contemporain. Et je ne savais pas qu'en fait, c'est à Otmo Puccino, le premier, que vous avez présenté votre premier album.
Oui, exactement.
Comme s'il fallait qu'il le valide, pour parler comme Booba a validé.
Tout à fait, tout à fait. C'était important pour moi. Parce que Oxmo, avec son premier album Opéra Puccino, c'est vraiment lui qui m'a montré la voie, qui a été un exemple. En plus, il faisait partie donc de ce collectif Time Bomb Commando, qui était un collectif. D'ailleurs, on retrouvait Booba également, qui a été pour moi la plus grande révélation de mon adolescence en rap français, qui m'a permis d'écrire en français en me disant c'est encore mieux que l'anglais, parce que pendant longtemps j'ai pensé que c'était le rap américain qui pouvait sonner, qu'en français on pouvait pas y arriver.
C'est vraiment les
premiers qui m'ont conforté dans cette idée. Et puis Oxmo, c'est vraiment un poète c'est quelqu'un qui s'embarrasse pas des codes. Il s'était jamais embarrassé des codes et il s'est toujours renouvelé. Donc il faisait en sorte que quand j'écoutais Oxmo, je me disais en fait c'est pas une histoire d'âge le rap, c'est une histoire de
ça mentalité. Vous a autorisé à y aller, quoi.
Ouais.
Alors, à propos de ne pas s'embarrasser des codes, c'était aussi le sujet de votre deuxième album en 2020, donc Lundi Méchant. Donc, j'explique un peu le sens pour ceux qui savent pas. C'est qu'en fait, il y a une boîte. Alors, elle est où cette boîte?
Elle est à Bujumbura, dans un quartier qui s'appelle Wiza. Voilà. Boîte qui s'appelle le 5 sur 5.
Et donc, l'idée, c'est qu'on va arrêter d'être conformiste et de sortir que le samedi soir pour aller bosser docilement avec son petit costard et sa petite valisette, là, le lundi matin. On va se déchirer la tête le lundi soir. Direct. La boîte, elle ouvre à minuit, et comme ça, on est décalqué dès le mardi matin, et donc on va pas bosser.
On va directement au boulot,
C'est ça qui est. Mais on va au boulot avec un décalage intérieur, avec une distance.
Ah oui.
Et c'est ça, Lundi Méchant. Donc dans cet album, il y a beaucoup de titres de vous que j'adore. Il y a Chaloupé, il y a Boomer, il y a Respire. On va écouter un petit extrait de Chaloupé.
Personne ne pourra empêcher nos corps usés de chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Avant que le printemps se fasse automne.
Alors Gaël Faye, j'adore moi cette chanson-là. On retrouve cette douceur, hein, ce balancement qui est chez vous. D'ailleurs, on le retrouve aussi beaucoup dans la balade brésilienne que vous avez faite avec
Flavia Coelho.
Voilà. Ouais. Donc il y a cette dimension chez vous. J'ai quand même envie de revenir sur la même question tout le temps. Est-ce que cette douceur, cet émerveillement devant la beauté de la nature, est-ce que cet art de chalouper, il est tout le temps à vivre dans le rapport au fond au génocide et à l'exil? Ou est-ce que parfois on est débarrassé de ça? En fait, comment est-ce qu'on chaloupe de la même façon, quoi?
Oui, bien sûr, il est débarrassé parce que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir ces premières années de vie sans toute cette violence et des émerveillements indescriptibles. C'est comme dit Stefan Zweig, c'est Rilke plutôt qui dit ça, ouais. qui dit que c'est le coffre-fort de l'enfance qui fait que là on peut puiser éternellement. Et donc moi j'ai eu cette chance-là, en plus avec un père qui m'emmenait toujours dans la nature.
Oui, parce qu'il dirigeait des parcs naturels, je crois.
Exactement.
Il vous emmenait chasser des serpents parce qu'il faisait une était spécialiste
il
de serpents.
Herpétologue, voilà. Herpétologiste, ouais. Ouais, et donc c'est la chance que j'ai eue. Je peux quand même décorréler, mais et peut-être que ça a été encore plus violent pour cette raison-là, l'arrivée de la politique dans ce cadre-là, parce que il y avait cet Éden dans lequel on évoluait.
Dans les théories de la résilience, mais pas la résilience que vous aviez critiquée, qui implique un oubli, mais la vraie résilience, celle de Boris Cyrulnik, enfin celle dont Boris Cyrulnik parle bien, il raconte qu'une des conditions, c'est justement d'avoir connu avant le drame de la douceur, la sécurité, de liens d'attachement, d'avoir été aimé. Et vous avez été aimé et par vos parents et par ce père qui aimait la nature, et puis aussi par la vie elle-même, par cette douceur de l'enfance.
Complètement. C'est marrant parce que quand je me souviens de cette enfance-là, il n'était pas question d'avenir. Il y avait que du présent et que cette envie de. J'avais l'impression d'être dans une grande récréation qui n'allait jamais se terminer et dont j'étais le héros principal. Et donc ça a été difficile de quitter la cour de récré. Ouais.
Est-ce que vous avez parfois été trop prudent?
Oui. Ah oui, je regrette. En fait, plus que prudent, je dirais que j'ai été raisonnable. Très raisonnable.
Mais vous diriez trop, ou alors c'est parce que justement vous l'avez été longtemps que quelque chose a germé, un peu comme ces plantes, et que finalement il fallait prendre son temps, que c'était bien?
Il y a une partie de moi qui se dit ça, qui se dit oui, il faudrait plutôt le prendre comme ça, se dire que pas de regrets. Et puis il y a le temps qui est passé, il y a tellement de journées que j'ai laissé filer, je considère pour rien que j'ai donné du temps de vie, mais je sais que c'est aussi dans ces moments-là finalement que quelque chose pourri en soi a le temps de germer, etc.
Tous ceux que vous avez évoqués, hein, de Rimbaud à Dany Laferrière, on parlait de cet ennui comme un chemin vers la création, vers l'émerveillement, vers la beauté.
Ouais. Et donc voilà, c'est un sentiment mitigé entre ce, une position où parfois je me dis bah tant mieux qu'il y ait eu ces ennuis devant un écran dans un bureau ou sur des bancs de la fac. Et puis en même temps, je me dis, mais tout ce temps où il y avait une énergie fabuleuse en moi, où finalement j'aurais pu oser des choses, je serais tombé, je me serais relevé, mais j'aurais peut-être appris encore plus. Voilà. La seule chose qui me rassure peut-être, c'est qu'il y a eu ce temps où j'ai dit, bah allez, essaye.
Merci beaucoup Gaël Faye. On a bien compris cette manière de chalouper comme ça entre le confort et l'audace. C'était un plaisir de parler avec vous. Je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui a été la vôtre. Voilà, un balancement entre douceur et colère. Une sorte de philosophie de la créativité où on tente différents formats. On refuse de se laisser enfermer. Si je peux pas dire tout dans une chanson, alors j'écris un livre. Et finalement, dans ce refus des contraintes et des formats, il y a peut-être aussi une vraie philosophie de la liberté. Quand vous dites voilà l'ennui, quand vous dites j'attends, c'est aussi le moment où ça gère, le moment où ça grandit, pour finalement donner ce mot tellement éblouissant du Jacaranda de votre dernier EP que je recommande. Merci beaucoup Gaël Faye de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. C'était délicieux, c'était un soleil à la fois français, rwandais et burundi, on dit comme ça ?
Burundais.
Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Benjamin Troncin, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Ribourg. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter.